abeilles.
Merci. Alors, c'est assez amusant parce que tu as eu du mal à dire depuis combien d'années je travaille sur les abeilles et la pollinisation. Et moi-même, en préparant cet exposé, je me suis rendu compte que je travaillais sur cette thématique depuis finalement assez peu de temps. Et je ne suis probablement pas la personne la plus au courant des problématiques d'abeilles ou d'apiculture dans cette salle. Je suis sûr qu'il y a des gens qui en connaissent beaucoup plus que moi. Et je les invite d'ailleurs à corriger d'éventuelles inexactitudes. En fait, la problématique des abeilles, de la pollinisation et de l'apiculture, qui rejoint à certains égards celle de l'agriculture, pour ce qui me concerne et ce qui concerne le programme de recherche que j'anime, c'est une histoire qui a à peine 10 ans. On s'y est mis en fait très tard. Et je vais utiliser l'histoire de ce programme de recherche, qui est donc finalement assez récent, puisqu'on travaille sur les problématiques agricoles depuis 25 ans maintenant. Donc c'est relativement récent comme thématique. Je vais utiliser l'historique comme fil directeur de cette conférence. Alors l'histoire, elle débute en fait donc 25 ans plus tôt, en 1994, quand est créée la zone atelier Planet Val de Sève, donc qui est le site de recherche sur la problématique agriculture-environnement qui est animée autour du CNRS de Chizé avec un certain nombre de partenaires. Et à l'époque, en 1994 jusqu'en fait en 2007, il n'y avait rigoureusement aucune recherche sur les abeilles ou sur la pollinisation. Et en fait, ces recherches, elles sont nées en fait de rencontres, de coïncidences et de rencontres totalement fortuites et successives à partir de 2007. Et c'est ça que je vais vous présenter maintenant. Alors, avant d'entrer dans cet historique, je rappelle quand même des éléments de contexte. 2007, c'est les années, on va dire 2006-2008, ce n'est pas des années anodines dans le contexte de l'apiculture et des abeilles, parce que c'est, alors certainement pas du côté des apiculteurs, mais en tout cas du côté des chercheurs et de l'opinion publique, l'irruption sur la scène de la problématique du déclin des abeilles. Et vous voyez ici que ce déclin, en fait, il a commencé bien plus tôt. Là, c'est la production de miel aux États-Unis, et on ne voit pas bien les dates, mais à l'extrême gauche, la colonne, c'est 1945. Donc au cours des 50 dernières années, vous voyez que cette production de miel a pas mal diminué. Et la petite flèche qui est au milieu, c'est l'apparition du varroa aux États-Unis. Et en fait, on a des données moins précises en Europe, mais en Angleterre, il y a quand même d'assez bonnes données sur la filière apicole. Et donc on voit en haut, c'est le nombre de colonies, et en dessous, c'est le nombre d'apiculteurs. Donc vous voyez qu'en Angleterre, sur les 50 dernières années, on a des déclins tout à fait du même ordre. Et à l'échelle de l'Europe, c'est dans les années 2006-2008 qu'on commence à quantifier sur un certain nombre de pays la problématique des mortalités hivernales. Les cercles verts là indiquent les valeurs les plus élevées. Donc en gros, entre 30 et 50% de pertes de ruches en hiver. Et alors, en même temps, ce que je vous montre ici, c'est l'évolution du nombre de publications scientifiques sur la problématique des abeilles entre 1970 et 2010. Et vous voyez qu'il y a deux phases. 1987, c'est quand aux États-Unis, un certain nombre de chercheurs se rendent compte qu'il y a un problème avec les abeilles, et on voit apparaître un premier soubresaut en termes de nombre de publications par année. Et puis 2006-2007, dont je vous parlais à l'instant, là on enregistre une augmentation exponentielle, parce qu'à ce moment-là, on réalise que la problématique du CCD, Colony Collapse Disorder, c'est-à-dire la disparition des colonies d'abeilles, la disparition des butineuses de manière à la fois abrupte, massive et inexpliquée. Et on se rend compte surtout que ça touche l'ensemble des continents, l'Europe, les États-Unis, l'Australie. Ça touche l'abeille domestique et l'apiculture, mais ça touche également les abeilles sauvages. J'en parlerai dans un instant. Ça remonte probablement à 50 ans, mais les données les plus fiables et les plus générales sont autour des 20 dernières années. Et donc, c'est surtout marqué par cette surmortalité hivernale des colonies. Donc, il y a eu des centaines d'articles publiés sur les causes du déclin des abeilles, en gros entre 2000 et 2015, pour aboutir à la conclusion que les causes du déclin étaient multifactorielles. L'apparition du varroa, donc un acarien, qui augmente la mortalité des colonies, notamment en été, fin d'été. Différents types de maladies. Ici, c'est une photo qui concerne la loche américaine, mais il y a un assez grand nombre de pathogènes dans les ruches. Et puis l'apparition plus récente du frelon asiatique, qui a été pointé comme une cause potentielle. Mais donc ça, c'est des causes, on va dire, plutôt naturelles, entre guillemets, et s'ajoutent à ces causes naturelles, même si le frelon, c'est quand même pas vraiment naturel, des causes d'origine humaine, liées aux activités humaines. On pense évidemment à la gestion des cultures et notamment à la problématique des pesticides, à l'évolution de la structure et de la composition des paysages agricoles, avec par exemple la diminution des prairies fleuries ou des éléments semi-naturels. Et puis, je terminerai mon exposé un petit peu là-dessus, je pense qu'il ne faut pas oublier non plus des problématiques autour de l'apiculture et de la gestion des ruches. Donc voilà où on en est en 2007, quand donc nous on continue notre programme de recherche sur l'agriculture, et on s'intéresse notamment beaucoup aux outardes, qui sont des oiseaux qui ont besoin de luzerne. Et à cette époque-là, il se trouve qu'une ancienne stagiaire que j'avais eue, qui a travaillé justement sur les luzernes et les outardes, que j'avais eue dans les années 90, qui est à cette époque-là, en 2007, qui travaille comme chargée de mission à l'ADA, l'Association de développement apicole en Poitou-Charentes, l'ADA Poitou-Charentes, me contacte pour voir s'il n'y aurait pas moyen de réfléchir à des projets en commun autour des abeilles, des oiseaux. Voilà. Donc on a fait plusieurs réunions et on s'est rendu compte de points de convergence autour des problématiques liées à la biodiversité. Et on a décidé de monter un programme en commun sur l'apiculture et les oiseaux autour de la luzerne, puisque ça produit des fleurs qui sont pollinisées ou utilisées par les abeilles. Mais comme moi, je connaissais rigoureusement rien aux abeilles, je savais qu'il existait un centre INRA à 20 km de Chizé dont c'était le métier, et donc j'ai assez rapidement contacté des chercheurs là-bas. Et ça a évolué très vite en une collaboration assez étroite, puisqu'on n'a même pas mis un an pour mettre ça en place, entre donc l'ADA, le syndicat apicole, l'INRA du Manureau et le CNRS de Chizé. Et on a bénéficié tout de suite de financement de la région Poitou-Charentes. À l'époque, c'était Ségolène Royal, qui était encore aux manettes. Et donc, on a réfléchi au montage d'un programme, à la mise en place d'un programme avec des ruches. Alors, bon, c'était un programme scientifique, donc on avait l'ambition de travailler autour de l'abeille et de l'apiculture, mais avec les contraintes d'un programme scientifique. Et donc, même si des ruchers apicoles, c'est généralement 20, 25, voire plus. Ruches, nous, c'était pas possible de gérer des paquets de 25 ruches. Et en plus, on voulait avoir un certain nombre de réplicas statistiques. Donc, on est parti sur des beaucoup plus petits ruchers, de 5 ruches seulement, qu'on a mis en place dès 2008. Et comme on travaillait avec l'ADA, l'idée, c'était d'utiliser ces ruches en conduite apicole, c'est-à-dire que c'est des ruches donc, qui sont très équipées, très instrumentées, mais qui produisent du miel. Et d'ailleurs, on a des productions de miel qui sont vendues. Et qui sont tout à fait comparables aux productions de miel des professionnels. C'est des ruchers qui sont traités avec des insecticides ou des acaricides contre le varroa, par exemple. C'est des ruchers dans lesquels on fait aussi de l'ajout de sirop de sucre. Donc voilà, c'était vraiment une conduite tout à fait conforme à la conduite apicole des ruches. Et donc ça nous permet de travailler aussi sur l'apiculture. Mais ce qui nous a intéressé, évidemment, par peut-être des formations professionnelles, c'était de travailler sur l'écologie de l'abeille et notamment sur la problématique des ressources alimentaires. Et donc c'est comme ça qu'on a créé le dispositif qui est maintenant un dispositif qui est très connu sur le plan national et international, qui s'appelle ECOBI pour écologie de l'abeille domestique, qui est donc un partenariat issu d'un partenariat entre l'INRA du Manureau et le CNRS de Chizé. Et ça me permet d'introduire des personnes clés dans ce montage, que sont Jean-François Audoux et Pierre Copinel. Jean-François est là aujourd'hui. Et s'il y a des questions un peu techniques sur les abeilles, je lui passerai volontiers la parole. Donc ils ont mis en place ces ruches. Donc vous voyez ici une photo. Bon, c'est la logistique, évidemment. Enfin, comme il y a pas mal d'instrumentation, il y a beaucoup de pesées. Il y a maintenant presque des ordinateurs dans chacune de ces ruches. Donc ça ne ressemble pas forcément complètement à des ruchers classiques. Mais... Et donc le dispositif ECOBEE, en fait, il utilise la zone atelier. Donc qui fait, vous voyez en haut de l'image, c'est une Cartigène. Vous avez la ville de Niort, le polygone vert, c'est la forêt de Chizé. La zone atelier, elle est entre la forêt de Chizé et la ville de Niort. Elle fait 450 km². Donc on a divisé la zone en carrés de 10 km². Donc il y en a, on en a fait 50 au total, qui font chacun 10 km². Et chaque année, on dispose des ruches dans 10 de ces carrés. Et donc au bout de 5 ans, on a fait l'ensemble des carrés et on reprend un nouveau cycle. Donc ça nous permet de tourner et de visiter l'ensemble des paysages de la zone atelier. Alors qu'est-ce qu'on fait sur ces ruchers instrumentés et équipés? Bon, on mesure un certain nombre de paramètres. Vous voyez ici l'équipe du Magnoro. Des paramètres qui relèvent de la dynamique des colonies, donc qui sont conduites, je le rappelle, en conditions d'exploitation professionnelle. C'est des ruches à 10 cadres, très classiques, avec des rennes d'un an en l'occurrence. Il y a un certain nombre d'équipements, mais alors ça reste très, quand même, enfin c'était jusqu'à il y a 1 ou 2 ans encore très artisanal, avec des pesons, des réglets, des fiches, des photos. Et beaucoup de mesures manuelles. On commence à petit à petit à automatiser tout ça. Ces ruches sont équipées d'un certain nombre de dispositifs qui nous permettent de récupérer par exemple du pollen, de compter le nombre d'abeilles mortes. C'est les grandes plaques que vous avez vues tout à l'heure sur les photos. Il y a maintenant des sondes thermiques qui permettent d'enregistrer la température, qui est un paramètre important de la santé des colonies. Et puis maintenant on les pèse en continu et en temps réel, avec des balances qui sont connectées, qui vont bientôt être connectées au Wi-Fi, qui nous permettront d'avoir un suivi en temps réel du poids de chacune des ruches. Et puis en plus de tout ça, au laboratoire du Magnoro, il y a des gens qui sont experts en palynologie, qui sont capables d'identifier les pollens, les grains de pollen qui sont ramenés par les abeilles, grâce à des collections de références. Et ça aura son importance dans un instant, comme je vous le montrerai. Donc tout ça nous permet de suivre de manière assez détaillée, enfin même très détaillée, la taille des populations, combien il y a de butineuses, combien il y a d'adultes, la surface du couvain qui nous donne une idée du nombre de larves, une idée assez précise, le couvain mâle, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. On mesure aussi sur une base tous les 10 jours le poids des réserves, c'est-à-dire les réserves de miel qui sont cumulées dans la ruche, la quantité de pollen, donc la quantité de miel, et aussi la diversité du pollen, c'est-à-dire l'origine florale des pollens qui sont ramenés par ces abeilles. Alors ce dispositif, on l'a mis en place en 2008, et dès 2009, on a commencé à avoir des premiers résultats, parce que comme on a mis 50 ruches, c'est quand même statistiquement un échantillon relativement raisonnable. Alors, ce n'est pas des grandes surprises, mais enfin quand même, on a, par exemple, vous avez en haut à gauche la dynamique du couvain, donc les petites... colonne, c'est les mois, donc avril, mai, juin, juillet, août. Et vous voyez que, alors les deux périodes qui sont colorées, c'est la période de floraison du colza, la première colonne jaune, la deuxième colonne jaune, c'est la floraison du tournesol. Et vous voyez qu'il y a une dynamique extrêmement importante, par exemple, du couvain. En fait, les abeilles produisent beaucoup de couvain et puis ça décroît régulièrement. Le nombre d'adultes qui est en bas à gauche montre un pic entre les floraisons du colza et du tournesol. Et en bas à droite, vous avez la dynamique des réserves dans la ruche. Les réserves, c'est le miel en fait qui va être exploité et récolté par les apiculteurs, avec deux pics, l'un qui est au moment de la floraison du colza et l'autre qui est pendant ou juste après la floraison du tournesol. Donc c'est quand même des dynamiques saisonnières très très marquées, très contrastées à l'intérieur d'une année, mais on a aussi mis en évidence très vite qu'il y avait des décalages importants entre années. Là ici, vous avez la dynamique de production de miel dans les ruches tous les 15 jours sur 4 années différentes, et vous voyez que le pic de production de la miellée de tournesol peut être décalé de presque 1 mois et demi selon les années. Donc c'est quand même tout à fait considérable. Et alors c'est peut-être très bien connu des apiculteurs, mais sur le plan de l'écologie de l'abeille, ça nous montre quand même qu'il y a une certaine forme de plasticité importante qui est certainement reliée évidemment au pic de floraison et à la météo et au climat. Mais donc voilà, dès les toutes premières années, on a eu déjà des premiers résultats intéressants sur la dynamique saisonnière et la dynamique interannuelle. Alors aujourd'hui, on est à des degrés de précision bien supérieurs, puisque je vous disais, les ruches sont pesées maintenant en permanence. Il y a une balance, une potence qui est sous la ruche, qui est connectée à un ordinateur. Et donc on a l'évolution du poids de la ruche en temps réel, avec un pas de temps qui est de l'ordre, je crois, de la minute, ce qui nous permet de... Là, vous voyez les courbes, c'est tous les jours. Donc on voit les sorties, on arrive à quantifier la sortie des adultes et le retour des butineuses. Donc c'est des données qui ne sont pas encore exploitées, parce que ça pose presque des problèmes de bioinformatique aujourd'hui pour nous. Donc ça, c'était la première étape, 2008, la mise en place des ruchers Ecobee. Arrive une deuxième étape importante, qui est en 2010, et avec surtout l'arrivée de nouveaux partenaires autour d'un programme qui s'est appelé Polynov. Alors, les partenaires, c'est d'abord l'ITSAP. J'ai marqué ISTAP, mais c'est ITSAP. L'Institut de l'abeille, c'est un institut technique de l'ACTA qui a été créé en 2009, suite justement à la problématique des abeilles et de l'apiculture, qui a donné lieu à un rapport par un sénateur ou un député, je ne sais plus, je crois que c'était un sénateur, Sadier, en 2008, qui a recommandé la création de cet institut pour essayer de mieux comprendre la problématique de l'apiculture et des abeilles. Et donc, il recommandait la création de cet institut. Et dès l'année suivante, l'institut en question s'est tourné vers nous dans le cadre du montage d'un projet qu'ils avaient envie de créer autour des liens entre l'agriculture et l'apiculture. Et ils ont découvert l'existence à la fois de la zone atelier, où il y avait un historique très important de connaissances sur l'agriculture, mais aussi la mise en place de ce rucher Ecobee et le travail avec l'association de développement apicole Poitou-Charentes. Et ils ont décidé de changer complètement la nature de leur projet et de le réaliser en intégralité avec nous sur la zone atelier dans le cadre du dispositif Ecobee. Et en même temps que l'ITSAP rejoignait le partenariat ADA, CNRS, INRA du Manuro, il y a également un autre laboratoire de l'INRA à Avignon spécialisé sur les abeilles qui nous a rejoints, avec trois personnes un petit peu clés dans ce nouveau partenariat. Deux de l'ITSAP, Axel de Courty et Fabrice Allier, et puis Michael Henry qui venait d'être recruté à l'INRA à Avignon sur la problématique de l'écologie des abeilles. Alors le CASDAR, en trop, CASDAR, c'est des programmes financés par le ministère de l'Agriculture avec une vocation assez finalisée, assez appliquée. Notre objectif, c'était d'imaginer des systèmes agricoles qui restent performants pour l'agriculteur, mais qui soient aussi intéressants pour les apiculteurs et pour les abeilles. Donc je ne vous dirai pas que ça a été un succès total, parce que 10 ans plus tard, il y a encore beaucoup de choses à inventer et à trouver pour relier l'apiculture et l'agriculture, mais on a quand même développé un certain nombre de solutions. Et surtout, ça a été l'occasion de démarrer deux thèses, deux travaux de thèse, entre 2010 et 2013. Celui d'Oriane Rollin, donc, qui était basé à Avignon, sur la problématique des abeilles sauvages, et le travail de thèse de Fabrice Requier, qui était encadré par l'INRA du Manuro et le CNRS de Chizé. Alors la première thèse, donc, ça nous a mis un pied dans un nouveau monde, là encore, qui était celui des abeilles sauvages. Ce que moi j'ai découvert à cette époque, et peut-être certains le découvriront aujourd'hui, on pense abeilles domestiques. Mais en fait, il y a beaucoup d'abeilles sauvages. Et quand je dis beaucoup, il y a à peu près 1000 espèces d'abeilles sauvages en France. Donc il y en a 1000 fois plus que de pollinisateurs domestiques, pratiquement 1000 fois plus. Donc la diversité des abeilles, c'est avant tout les abeilles sauvages. Donc à l'époque, il y avait 968 espèces en France. Il y en a à peu près 20 000 dans le monde. Donc c'est un groupe qui est quand même très diversifié, qui est très diversifié en morphologie, en habitude alimentaire aussi. Il y a des abeilles à langue courte, des abeilles à langue longue, qui n'utilisent pas du tout les mêmes fleurs, parce qu'il y a des fleurs à corolle profonde et des fleurs sans corolle. Donc il y a des spécialisations alimentaires et des réseaux presque mutualistes entre les abeilles et les fleurs pour le prélèvement du nectar pour l'abeille et la pollinisation pour ce qui est des fleurs par les abeilles. Donc des traits de vie, ce qu'on appelle des traits de vie très diversifiés en taille des individus, en degré de socialité. L'abeille domestique, c'est l'abeille la plus sociale. Il y a d'autres espèces sociales, mais avec une socialité moins développée. Et la plupart des abeilles sauvages sont des abeilles plutôt solitaires, donc sans société du tout. Et puis il y a aussi une grande variété de spécialisation alimentaire. Il y a des espèces d'abeilles qui sont interdites pratiquement qu'à une seule fleur, et puis d'autres qui sont capables d'utiliser des dizaines ou des centaines d'espèces comme l'abeille domestique. Donc il y a eu un très gros effort d'échantillonnage sur la zone atelier pendant 3 ans. 45 000 abeilles ont été collectées. À peu près sur ces 45 000, il y avait 30 000 abeilles domestiques, environ 5 000 bourdons et à peu près 12 000 abeilles sauvages qui ont toutes été identifiées. C'est un travail de bénédictin, parce que vous voyez une petite partie de la collection de référence. Il y a beaucoup d'abeilles qui sont extrêmement proches morphologiquement les unes des autres. Et au final, on s'est rendu compte, bon, ça c'est, je ne vais pas détailler cette courbe, mais on s'est rendu compte que sur la zone atelier, en l'espace de 3 ans, on avait déjà trouvé à peu près 200 espèces d'abeilles différentes. Je vous rappelle qu'il y en a 950 en France. Et par projection, parce qu'en fait, plus on augmente le nombre, en abscisse, vous avez le nombre de sites qui ont été inventoriés, et en ordonnée, vous avez le nombre d'espèces d'abeilles qui a été trouvé. Et vous voyez que plus on inventorie un nombre de sites élevé, plus évidemment, mais la statistique, on trouve un plus grand nombre d'espèces. Et on a estimé que sur la zone atelier, il y avait à peu près 250 espèces. Ça, c'était en 2013. Aujourd'hui, on a dépassé les 250 espèces parce qu'on a continué ces inventaires. Et on est aujourd'hui à peu près à 260 espèces différentes. C'est-à-dire qu'un tiers des abeilles de France se trouvent dans une petite plaine céréalière du sud des Deux-Sèvres. On a montré aussi que la diversité des espèces était très différente. En bas, vous avez la courbe qui présente le tournesol. Et en haut, la deuxième courbe grisée, c'est celle qui présente les milieux semi-naturels et les prairies. Et vous voyez que donc il n'y a pas photo entre le nombre d'espèces qui sont présentes dans les cultures et dans les milieux naturels. Il y en a beaucoup, beaucoup plus. L'essentiel de la diversité est porté par les prairies et par les haies, en l'occurrence. Et donc, ces travaux de thèse ont permis de réfléchir à des pratiques à la fois à l'échelle des paysages ou à l'échelle des parcelles qui maximisent la diversité et l'abondance, notamment des abeilles sauvages, et qui, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si ça vous intéresse, on peut en discuter, qui essayent aussi de minimiser la compétition qui existe entre l'abeille domestique, l'abeille mellifère, qui est produite dans des ruches à des dizaines de milliers de butineuses, contre les abeilles sauvages, qui sont pour la plupart des espèces des abeilles solitaires, et qui sont donc évincées des fleurs ou des parcelles par l'abeille domestique. Deuxième travail de thèse important ici, c'est celui donc de Fabrice, dans lequel on s'est intéressé à l'écologie de l'abeille domestique. Alors ça peut paraître paradoxal pour une espèce qui est quand même très utilisée à des fins de production, de miel en l'occurrence. On s'est rapidement rendu compte que sur le volet de l'écologie de l'abeille, notamment dans les plaines céréalières, pratiquement rien n'était connu, y compris même le régime alimentaire. Et je vous montrerai des résultats tout à fait surprenants sur le régime alimentaire. C'est quand même la base, quand on travaille sur l'écologie d'une espèce, de savoir ce qu'elle mange. On ne savait pratiquement rien du régime alimentaire de l'abeille domestique. Donc l'écologie de l'abeille, c'est une écologie qui est assez compliquée, parce que vous le savez, évidemment, il y a une reine, il y a des ouvrières qui s'occupent du couvain, puis qui ensuite, plus tard dans leur vie, deviennent des butineuses. Et puis il y a les mâles, qui comptent pratiquement pour rien, mais qui comptent quand même, parce qu'il faut bien qu'ils fécondent les reines. Donc, au niveau des ouvrières, en fait, dans un premier temps, elles sont à l'état de larves, dans le couvain, donc des œufs, voilà. Elles finissent par émerger au bout de 21 jours, et pendant à peu près 20 jours en moyenne, ces ouvrières vont s'occuper du couvain, exclusivement, elles ne sortent pas de la ruche, en fait. C'est des choses que moi j'ai découvertes et que je pense qu'on ignore en règle générale. C'est après avoir été ouvrière dans la ruche qu'elles deviennent butineuses, donc à l'âge de 20 jours en moyenne, il y a une assez grande variabilité, et en moyenne elles sont butineuses pour quelques jours seulement. C'est 3-4 jours, pas plus, quoi. Donc, certes, il y a 30 000 butineuses dans une ruche, mais ça vous donne une idée d'ailleurs de la taille de la population qui existe dans une ruche. Et le petit graphique à droite, il vous montre à quelle distance en kilomètres dans les milieux agricoles ces butineuses vont butiner, donc chercher des fleurs. C'est très variable, c'est en moyenne 1,5 km, qui est quand même considérable quand vous pensez à la taille d'une abeille, et ça peut aller jusqu'à 10 km, voire 13 km. En période de disette alimentaire, quand il n'y a pratiquement plus de fleurs, les abeilles sont capables d'aller vraiment très très loin de la ruche, ce qui évidemment n'est pas sans coût sur le plan énergétique et sur le plan de leur survie. Alors leur alimentation, donc il y a une grande aire de butinage, dans la moyenne donc de 1,5 km de rayon autour de la ruche. Le nombre de butineuses, c'est à peu près 60 000 individus, enfin 30 000 individus, pardon, sur une population totale, parce qu'il y a celles qui s'occupent du couvain, de 60 000 voire plus. Et elles ont besoin donc d'une grande quantité de ressources, à la fois pour assurer la croissance du couvain, donc la future génération de butineuses, mais aussi pour assurer la survie des butineuses, puisque pendant qu'elles ramènent du pollen, il faut quand même qu'elles survivent pendant quelques jours. Et elles trouvent tout ça, toutes ces ressources dans les fleurs, à travers à la fois le pollen. Donc le pollen, il a pour fonction principale de nourrir le couvain, c'est une source de protéines, mais aussi de minéraux et de lipides. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les abeilles, en tout cas l'abeille domestique, ne stockent pas de pollen. Il y a très très peu de stock. Donc c'est une ressource qui est utilisée, ce qu'on dit, on va dire avec des guillemets, en flux tendu. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles trouvent sans arrêt du pollen. Et s'il y a moins de pollen, il y aura moins de couvain parce que le couvain survivra moins bien. Et ça, c'est au contraire du nectar, qui est l'autre ressource qui est prélevée dans les fleurs par les abeilles. Le nectar, c'est du sucre, en fait, pour l'essentiel. Et le sucre, c'est ce qui est utile aux abeilles comme carburant, en fait, pour la survie immédiate. Donc ce n'est pas du tout pour le couvain, c'est plutôt pour la survie des butineuses, mais aussi la survie des ouvrières dans la ruche. Et là, par contre, les abeilles sont capables, évidemment, de faire des réserves, et c'est parce qu'elles ont cette capacité, notamment l'abeille domestique, qu'on les exploite pour utiliser le miel et récolter le miel. Alors, le régime alimentaire des abeilles, j'en parlais à l'instant, on avait la chance au Manioro d'avoir quelqu'un qui s'appelle Thierry Tamy, qui n'est pas là aujourd'hui, qui a développé l'expertise d'identifier les grains de pollen au microscope et à la loupe binoculaire. Et heureusement qu'il y avait cette capacité, parce qu'on s'est rendu compte que les abeilles avaient un régime alimentaire extraordinairement diversifié, puisqu'on a dénombré pas moins de 220 espèces. Un peu plus aujourd'hui parce qu'on a trouvé des nouvelles, 220 espèces différentes butinées en une saison de printemps, qui proviennent de milieux très différents, qui peuvent provenir évidemment des milieux boisés, que sont les haies ou les petits bosquets, voire les jardins, mais proviennent également, donc ça c'était en vert sur le camembert, ça provient également des cultures, donc c'est ce qui est la partie en jaune, notamment colza, mais surtout tournesol et encore plus maïs, qui est un pollen qui est très recherché. Ça provient un petit peu des prairies, mais pas tant que ça, finalement, en termes de nombre d'espèces ou de biomasse. Et ça provient beaucoup, c'est le croissant rouge, des adventices, la flore spontanée des champs, les messicoles, ce qu'on appelait autrefois les mauvaises herbes, et en particulier une adventice sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, qui est le coquelicot, qui à lui tout seul peut représenter 60% de l'alimentation en pollen des abeilles dans les grandes plaines céréalières comme il y a dans le sud des Deux-Sèvres. Ce qu'on a montré aussi, c'est qu'il y avait en termes de production, en tout cas de récolte de pollen ramené à la ruche, une saisonnalité, avec notamment un pic un petit peu après le mois de mai, un deuxième pic en été, juillet-août, mais surtout un creux entre mai et juillet, qui est une période de disette alimentaire, qui est un gros problème, et c'est l'époque précisément pendant laquelle les apiculteurs nourrissent leurs abeilles avec du sirop de sucre, entre autres, il n'y a pas que cette époque, mais c'en est une parmi d'autres, pour pallier justement à des déficits alimentaires. Voilà, et puis alors, donc ça c'était la contribution de la flore pour le pollen, qui est reporté à nouveau en haut, et par contre, pour ce qui est de l'origine du nectar, c'est beaucoup plus simple. Le nectar provient pour l'essentiel en milieu de grande culture, des cultures justement. Le premier au printemps, c'est le colza, et le deuxième en été, c'est le tournesol. Bon, ici, on est sur des systèmes principalement axés sur ces deux cultures. Ça peut être évidemment d'autres cultures dans d'autres endroits ou d'autres arbres. Mais à la différence du pollen, qui est donc d'origine extrêmement diversifiée et qui fait beaucoup appel à la flore spontanée, comment dire, l'élaboration du miel provient pour l'essentiel des cultures. Mais ça pointe quand même un phénomène qui est important ici, c'est que un apiculteur, pour produire du miel à partir des cultures, aura quand même besoin de la flore spontanée, parce que ces cultures ne produisent pas le pollen dont ont besoin les abeilles en particulier. particulier dans la période de disette alimentaire. Alors, on a aussi commencé à travailler sur la production de nectar. Donc, je vous ai dit à l'instant que le nectar provenait pour l'essentiel du tournesol et du colza, en tout cas le nectar qu'on retrouve dans l'élaboration du miel. Mais, comme je l'ai déjà aussi évoqué, il n'y a pas du colza ou du tournesol tout le temps pendant la saison, notamment entre les deux pics de floraison. Ça dure à peu près 2 mois, le mois, on va dire, de mi-mai jusqu'à mi-juillet. Il n'y a pratiquement plus de nectar disponible. Et c'est ce qu'on a quantifié ici à partir de modèles très simplifiés. C'est la disponibilité en nectar, en quantité totale, pour une ruche un peu fictive qui serait au milieu d'une plaine céréalière dans la zone atelier. Donc vous avez les colonnes jaunes, c'est le nectar qui provient du colza. Les colonnes rouges, c'est le nectar qui provient du tournesol. Et on a calculé la contribution de tous les autres types de fleurs pour la production de nectar que peut utiliser l'abeille domestique. Et vous voyez qu'entre ces deux pics de floraison, ben, il ne lui reste pas grand-chose. Il lui reste surtout les adventices qui sont en bleu, donc la flore spontanée. Et les prairies contribuent finalement relativement peu. Donc il y a une période de disette alimentaire pour le pollen, mais c'est encore beaucoup plus marqué évidemment pour le nectar. Et ça devient un goulot d'étranglement pour la survie même des ruches, parce que ce nectar est indispensable à la survie des butineuses et à la survie des adultes qui s'occupent du couvain. Donc ça, c'était la deuxième étape, l'écologie de l'abeille et les abeilles sauvages. La troisième étape dans l'évolution de notre programme, c'est la problématique des pesticides. Je vous ai dit qu'on s'intéressait aux déterminants de la dynamique des ruches et de l'apiculture dans les milieux de plaine céréalière. On s'est d'abord focalisé sur l'alimentation. C'était à juste titre, puisqu'on a identifié quand même des goulots d'étranglement. Mais évidemment, on ne pouvait pas occulter la problématique des pesticides qui existe depuis longtemps comme candidat important à l'origine du déclin des abeilles. Et c'est normal qu'on s'intéresse beaucoup aux pesticides parce qu'ils ont quand même évolué de manière tout à fait spectaculaire au cours des 60 dernières années. Alors, à gauche, ce n'est pas des pesticides, c'est les engrais, azotés en rouge, phosphore en vert, et le potassium en bleu, sont des données mondiales, hein. C'est les données de la FAO, donc c'est pas spécialement Poitou-Charentes, c'est pas spécialement la France, mais ces courbes sont tout à fait proches pour ce qui est du territoire national, donc une forte augmentation de l'utilisation des engrais, mais une augmentation qui a un caractère plutôt exponentiel pour ce qui est de l'utilisation des pesticides. On entend souvent j'entends souvent que les agriculteurs utilisent aujourd'hui moins de pesticides qu'il y a 30 ans, que c'est utilisé de manière beaucoup plus raisonnée. Ça, c'est une métrique qui n'est pas le tonnage de pesticides, qui est le coût des pesticides, qui reflète certainement beaucoup mieux ce qui se passe, parce que le tonnage, les néonicotinoïdes dont je parlerai dans un instant, qui sont des insecticides systémiques, sont à peu près 10 000 fois plus actifs que le DDT. Quand on dit 10 000 fois plus actifs, c'est-à-dire que là, on mettait 10 000 kilos de DDT, on ne met plus qu'un seul kilo de néonicotinoïdes. C'est ça que ça veut dire, 10 000 fois plus actif. Donc, quand en tonnage, on constate qu'il y a une baisse de l'utilisation en tonnage des pesticides, c'est en très grande partie lié au fait que ces pesticides sont aujourd'hui beaucoup plus actifs à quantité ou à volume ou à poids égal. Et donc, c'est une baisse qui est en fait totalement factice. Voilà des graphiques qui montrent qu'il n'y a pas de baisse. Et il n'y a pas de baisse non plus récemment en France, comme le montre les statistiques qui sont produites par le ministère de l'Agriculture dans le cadre du plan Ecophyto. Alors, le pesticide qui nous a intéressé en 2012, et notamment Michael Henry à l'INRA d'Avignon avec les collègues du Manuro, ce sont les néonicotinoïdes qui étaient encore très utilisés à l'époque. Et là où il y a eu une grande plus-value à la fois de notre rucher en plein champ et Kobi, et de technologies qui venaient d'être mises au point par, entre autres, l'ITSAP. Cette nouvelle technologie, c'est des puces RFID. Vous voyez ici en haut à gauche une photo d'abeille qui a une petite puce, c'est une espèce de transpondeur. Ça ne permet pas de suivre les individus dans leur milieu. Par contre, ça permet de savoir individuellement quand est-ce qu'ils rentrent et quand est-ce qu'ils sortent de la ruche. Donc, on a utilisé des milliers de puces électroniques comme ça pour équiper des milliers d'abeilles et pouvoir regarder le taux de retour des butineuses à la ruche dans différents contextes d'exposition aux pesticides. Et ce qui a été montré, c'est un article qui a fait grand bruit en 2012, c'est que dans des zones traitées par des néonicotinoïdes par rapport à des zones contrôle, ici ce n'est pas vraiment des zones, c'est plutôt des individus traités contre des individus non traités, le taux de retour, la probabilité de retour à la ruche était de 20% plus faible. C'est énorme, 20% chez les individus traités. Donc ça, ça a été publié dans une très grande revue internationale qui s'appelle Science. C'était la première preuve expérimentale sur, en dehors d'un contexte d'élevage, de l'effet de ces néonicotinoïdes sur la survie des abeilles et donc leur possible déclin. Et ça a eu beaucoup de retentissement, puisque dès l'année de la publication, en fait, le ministre de l'Agriculture de l'époque, qui était Stéphane Le Foll, a décidé d'un moratoire sur ce néonicotinoïde en particulier, qui s'appelle le thiamethoxam, qui était le néonicotinoïde utilisé sur le colza. Pas seulement le colza, mais entre autres le colza en France, en tout cas. Et cette décision de moratoire en France a immédiatement été suivie, ou quelques mois plus tard, au niveau européen, par l'Agence européenne de sécurité alimentaire, qui s'appelle l'EFSA, qui a décidé d'un moratoire étendu à trois néonicotinoïdes au total. Donc ça, c'est la première étude, et ça a été le point de départ d'une succession d'études qui ont été menées sur ce dispositif et sur la zone atelier, sur cette problématique des néonicotinoïdes, parce qu'on ne s'est pas arrêté là. En fait, on s'en est pas arrêté là, on n'avait pas du tout prévu de continuer, mais il y a eu, on peut dire, une levée de bouclier à la fois de la profession agricole, mais surtout des firmes qui produisent ces néonicotinoïdes, qui refusaient de croire dans ces résultats. Il y a eu beaucoup d'invectives, beaucoup de critiques. Et donc, on a mis en place des contre-expériences qui étaient présentées comme des contre-expériences sur notre propre zone d'étude pour essayer. Alors, les objectifs des différents partenaires n'étaient pas les mêmes, mais certains partenaires avaient comme objectif de démontrer que nos études ne résisteraient pas à des tailles d'échantillons plus importantes ou à des conditions apicoles mieux avérées. Donc on a mis en place en 2013 une autre étude. Ici vous voyez une petite carte qui représente une partie de la zone d'étude. Le carré fait à peu près 2000 hectares. Toutes les parcelles qui sont en couleur en jaune et en rouge sont des parcelles de colza. À l'époque, en 2013, le moratoire est en place, donc on n'a pas le droit d'utiliser de colza traité avec ce néonicotinoïde, mais on obtient une dérogation du ministère de l'Agriculture pour traiter un certain nombre de parcelles, c'est celles qui sont en rouge. Donc on a une zone pendant 2 années de suite qui est traitée avec ce néonicotinoïde, et on a positionné les ruches, c'est les petits points noirs que vous voyez, à des distances croissantes de cette zone traitée, ce qui nous a permis de mimer une exposition des abeilles plus ou moins importante à ce pesticide. Et ensuite, on a mesuré un certain nombre de paramètres sur la ruche. La première chose qu'on a vérifiée, c'est qu'on avait bien ce gradient, c'est-à-dire que les ruches qui étaient positionnées au milieu des parcelles rouges avaient des doses de néonicotinoïdes dans leur jabot, dans leur nectar, plus élevées que celles qui étaient à grande distance, et c'est exactement ce qu'on a trouvé, c'est-à-dire que plus on était loin de la zone traitée, moins les doses de thiamethoxam étaient élevées. Et on a démontré pendant 2 ans de suite, là en conditions complètement réelles, puisque ce sont des abeilles qui allaient, on ne savait pas où elles allaient, en fait, elles exploitaient leur milieu. On montre ici, vous voyez, l'abscisse, c'est le nombre de jours qui va de 5 à 20 jours après la mise en place de ces ruches. C'est aussi basé sur des petites puces RFID. Vous voyez le taux de mortalité, l'excès de taux de mortalité, par rapport à la mortalité naturelle, qui augmente avec le temps et qui atteint à nouveau 20 à 30% des individus au bout de 15 à 20 jours. Bon, c'est tout à fait considérable parce que ça impacte très fortement la démographie d'une ruche. Donc ça aussi, ça fait l'objet de publications dans des revues à forte audience scientifique internationale. Et après le moratoire de 2013, le résultat de ces études qui ont été menées sur la zone atelier, ça a été l'arrêt total des néonicotinoïdes dans le cadre de la loi biodiversité, donc qui a été votée en 2016 et qui est maintenant repris à nouveau à l'échelle de l'Europe, puisque l'EFSA vient de décider en 2018 de s'aligner quelque part sur la position française et d'interdire les 5 néonicotinoïdes les plus fréquents dans l'ensemble des cultures en Europe. Alors, je vais terminer quand même, parce qu'on continue à travailler sur les néonicotinoïdes, bien qu'ils soient maintenant a priori interdits, parce qu'il peut toujours y avoir des décrets d'application, Parce que dans le cours de ces études sur le colza et cet insecticide dans le colza, on s'est rendu compte qu'on retrouvait ces néonicotinoïdes dans d'autres cultures. Alors, pour comprendre ce qui se passe, je présente ici la diapositive d'un thésard qui est actuellement en thèse à Chizay avec le Manureau aussi sur cette problématique de néonicotinoïdes. Quand un agriculteur sème un champ de blé avec des semences traitées, alors c'est ici le néonicotinoïde s'appelle l'imidacloprid, c'est un autre, c'est le gaucho en fait, qui a été interdit sur le tournesol, mais qui est encore utilisé sur le blé. Voilà à quoi ressemblent les semences traitées, elles sont colorées, hein, c'est pas que l'insecticide a une couleur rouge, c'est simplement pour que tout le monde se rende compte qu'il vaut mieux pas trop traîner autour de ces semences et surtout pas en manger, il ne faut même pas d'ailleurs les toucher. Donc le blé est produit à partir de ces semences, donc ce sont des insecticides systémiques, c'est-à-dire qu'ils se baladent dans la sève de la plante, partout dans la plante. Bon, c'est pour ça qu'il y avait un problème d'ailleurs avec le colza et le maïs, c'est qu'ils se retrouvaient dans le nectar et le pollen. On n'avait pas du tout imaginé que ça pourrait poser un problème au niveau du blé. Ce qui se passe, c'est qu'une fois que le blé est récolté, donc l'agriculteur prépare le semis suivant, dans le cas de la zone atelier par exemple, une fois sur deux c'est un semis de colza, donc il va semer son colza qui lui n'est pas traité puisque c'est interdit, donc ce colza va pousser, produire des fleurs, ces fleurs produisent du nectar et ce nectar il est utilisé par des abeilles. Et on s'est rendu compte dans le cadre de nos études sur le nectar de colza et les abeilles qui utilisent ce nectar de colza qu'on retrouvait justement cet insecticide du blé alors qu'il n'aurait jamais dû se retrouver dans le nectar de colza. Donc on a développé, on continue à développer tout un réseau de suivi depuis maintenant 5 ans. C'est probablement le meilleur observatoire aujourd'hui à l'échelle nationale des néonicotinoïdes à l'échelle des territoires. Donc vous avez ici une vue partielle du nombre de parcelles qui sont échantillonnées. On en fait plusieurs dizaines par an. On a maintenant une banque de données de plusieurs centaines de parcelles. Donc les dosages sont faits par l'ANSES, qui est l'équivalent de l'EFSA au niveau national. Et voilà un peu les types de matrices dans lesquelles on retrouve ce néonicotinoïde. On les retrouve principalement dans le nectar de colza et également dans le pollen de trappe. Mais ce sur quoi je voulais porter votre attention, c'est la fréquence, ce qu'on appelle la prévalence, à laquelle on retrouve cet insecticide dans les nectars de colza. Alors on va s'intéresser juste aux colonnes qui sont au milieu ici. Donc c'est l'imidaclopride, celui qui a été semé dans le blé, qu'on retrouve donc dans le nectar de colza. Et au moins sur certaines années, vous voyez qu'on le retrouve à des proportions tout à fait spectaculaires, puisque plus de 90% des parcelles de colza présentent des valeurs assez, non seulement détectables, mais parfois très importantes, de cet insecticide dans le nectar, donc qui est utilisé par les abeilles, et qu'on retrouve d'ailleurs au passage dans le miel. Vous avez peut-être entendu parler de cette étude mondiale qui a quantifié ces néonicotinoïdes dans des miels, y compris qui viennent de l'Himalaya ou d'endroits complètement désertiques. Et 80% des miels de la planète aujourd'hui ont des doses non nulles de néonicotinoïdes. Et puis je voulais en venir au dernier aspect qu'on a étudié, qui est la pollinisation, qui est le dernier né, avec deux personnes, Sabrina Gaba qui est ici, qui est directrice de recherche à l'INRA, et puis Thomas Perrault qui soutient sa thèse demain, il n'est pas là ce soir, j'ai emprunté une partie de ses résultats. Donc l'idée est venue d'études qui ont été menées notamment par Sabrina Gaba sur les herbicides, dont l'objectif est de réduire la flore spontanée. Et on a évidemment identifié que cette flore elle est importante pour les abeilles. Je vous ai mentionné le coquelicot qui peut représenter 60% du régime alimentaire de l'abeille. Et donc on s'est intéressé au rôle que pouvaient avoir ces abeilles à travers l'importance des fleurs, mais au rôle qu'elles peuvent avoir dans la pollinisation des cultures. Et donc pour étudier la pollinisation des cultures, on met des petits sachets autour des fleurs qui empêchent les abeilles d'accéder à la fleur et de la polliniser, et on compare ainsi les fleurs qui ont accès aux pollinisateurs aux fleurs qui n'y ont pas accès, et on compare le taux de fructification ou la qualité des graines. Et ce qu'on a montré, je vais passer assez vite là-dessus parce qu'on a déjà eu l'occasion de le présenter à plusieurs reprises, c'est que les abeilles sont capables d'augmenter les rendements de colza ici de l'ordre de 30%, c'est-à-dire qu'entre un paysage où il n'y a pratiquement plus aucune abeille versus un paysage qui est encore très riche en abeilles, que ce soit domestique ou sauvage, parce que les deux catégories jouent, l'écart de rendement est de 30%, ce qui est tout à fait considérable. Et on trouve, je passe assez vite, exactement le même résultat avec le tournesol, où on a des écarts de rendement en situation extrême de pratiquement 40%. Pour vous donner un ordre de grandeur, quand je parle de pas d'abeilles versus beaucoup d'abeilles, il y a à peu près 25 fois plus d'abeilles en nombre d'individus quand je parle de beaucoup d'abeilles. Donc c'est quand même des écarts de taille de population qui sont tout à fait considérables. Alors j'en viens maintenant, un peu pour conclure cet exposé, à ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on va faire demain sur cette problématique pollinisation, apiculture, agriculture, donc sur la zone atelier qui est le site d'étude que je présente à cette étape de l'exposé. Donc notre objectif dans le programme de recherche, c'est de concilier agriculture et environnement et d'inventer un modèle agricole alternatif qui est essentiellement basé sur des solutions qui proviennent de la nature. Alors qu'est-ce que ça veut dire des solutions qui proviennent de la nature? On peut imaginer deux types d'agriculture demain qui ne sont pas forcément opposées, mais en tout cas elles ont des caractéristiques qui sont assez radicalement différentes. Une agriculture qui repose sur l'utilisation des drones, de petits robots qui sont maintenant au point pour aller désherber dans les parcelles, ou de robots de traite qui sont totalement automatisés, qu'on peut mettre dans les prairies, donc pas forcément dans des étables. Et puis à l'inverse, on peut imaginer des modèles d'agriculture où il y a encore des agriculteurs dans les champs, des vraies abeilles qui pollinisent et des coquelicots dans les parcelles de blé. Et en fait, ça balaye un petit peu l'écart qu'on peut imaginer et ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature et la problématique de l'agroécologie. Alors, puisque j'ai parlé de pollinisation, solutions fondées sur la nature, vous avez plein de fleurs, plein d'abeilles. On peut imaginer des cas un petit peu plus pilotés où on met des ruches d'abeilles domestiques à côté des colzas, des ruches de bourdons dans des serres de tomates pour les polliniser. Quand on n'a plus de pollinisateurs, comme c'est le cas dans certains endroits en Chine, on pollinise à la main dans les arbres. Et puis quand il y aura plus de pollinisateurs et que le coût de la main d'œuvre sera trop élevé pour faire ça, se développent actuellement, sont déjà au point en fait des drones d'abeilles qui font quelques centimètres de long, c'est un peu plus gros que des abeilles quand même, et qui sont capables de polliniser. Ben là, on balaye en fait les solutions fondées sur la nature à gauche et les solutions fondées sur le capital technologique à droite. Les deux sont peut-être aussi efficaces l'une que l'autre. Il y a quand même une différence fondamentale entre les deux. À gauche, c'est gratuit. À droite, ça coûte quand même assez cher. Et donc, on essaye, nous, de réfléchir à des modèles d'agriculture qui utilisent des solutions gratuites qui sont celles de la nature. Et c'est le principe même de l'agroécologie, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un mode d'agriculture qui puise ses solutions techniques dans les processus écologiques pour l'essentiel. Et c'est aussi un modèle d'agriculture qui se préoccupe d'une certaine éthique sociale et politique autour des problématiques de développement rural, d'équité environnementale ou de souveraineté alimentaire. Alors, ces solutions fondées sur la nature, ben, l'abeille domestique, c'est un très bon exemple. Mais je vous disais qu'on a du suivi sur pas mal d'années maintenant sur notre dispositif ECOBI. Et on a quand même quelques motifs d'inquiétude qui rejoignent l'état des lieux actuel, tel que vous pouvez le lire dans la presse autour de l'apiculture. C'est qu'on constate notamment pour ce qui est de la production de miel, c'est le graphique en bas à droite, que cette production... depuis 2009, en fait, elle est en déclin, et un déclin assez important, puisque les ruches produisent à peu près moitié moins de miel. Et ça, c'est certainement à mettre en relation avec, je vais passer assez vite là-dessus, parce que, en fait, c'est les traits rouges qui sont importants, c'est à mettre en relation avec un effondrement général de la biodiversité actuellement dans les écosystèmes céréaliers. Tout ça sont des données qui proviennent de la zone atelier de Chizé. Ça concerne aussi bien des plantes, comme les coquelicots, des micro-mammifères comme les campagnols, les carabes que vous avez au centre de la diapositive et différentes espèces d'oiseaux comme les alouettes, les perdrix ou des espèces patrimoniales. On a des suivis de durée variable qui vont de 15 à 25 ans. Et vous voyez que dans l'ensemble des maillons du système trophique, du réseau trophique, on observe aujourd'hui des déclins tout à fait spectaculaires et un petit peu inquiétants. Et ça nous amène aujourd'hui à développer des recherches et des recherches de solutions autour de quatre thématiques que je vais évoquer très vite. autour de la problématique apiculture, pollinisation, travailler avec les agriculteurs. On le fait depuis un certain nombre d'années, on a développé un certain nombre de programmes. Je vous ai parlé du programme Pollinov en début d'exposé, il a donné naissance à un autre programme avec pratiquement les mêmes partenaires, mais avec cette fois aussi la Chambre d'agriculture, par exemple, autour de l'innovation, de la recherche de systèmes de culture, de pratiques agricoles qui soient à la fois favorables à l'agriculture, mais aussi favorables aux pollinisateurs et donc à l'apiculture. Donc on teste en conditions réelles avec des exploitants. Il y a actuellement une trentaine de parcelles test sur la zone atelier depuis 5 ans maintenant. Donc ça représente des dizaines d'hectares expérimentaux quand même. On teste des réductions de pesticides et des réductions d'azote et on mesure l'utilisation accrue par les abeilles de ces portions de parcelles et l'effet sur les rendements et les revenus des agriculteurs. Il faut aussi faire travailler, et on s'y emploie, agriculteurs et apiculteurs ensemble, parce que c'est deux professions qui se côtoient, mais à bien des égards s'ignorent. Et Marine Goura, qui est sur cette diapositive, qui travaille à l'ITSAP, a développé des jeux, ce qu'on appelle des jeux de rôle, des jeux d'acteurs, avec à la fois des apiculteurs et des agriculteurs sur la zone atelier. Donc il y a un plateau de jeu, et on fait jouer le rôle d'apiculteur à un agriculteur et le rôle d'agriculteur à un apiculteur, ce qui est toujours assez intéressant d'inverser les rôles, et on leur fait voir comment leur production respective évolue. Et ça, ça permet quand même de faciliter les échanges et peut-être de travailler à moyen ou à long terme sur une meilleure intégration de ces deux types d'acteurs ou types de métiers. Il y a aussi du travail à faire avec les apiculteurs professionnels. Alors les apiculteurs professionnels, ils font face à ce que vous voyez sur le graphique de droite, c'est-à-dire l'effondrement continu et persistant des nombres ici de ruches, c'est aux États-Unis, mais il y a la même chose à peu près en France. Et peut-être, c'est quelque chose qu'on aimerait développer avec la filière apicole, prendre en compte le fait que l'abeille domestique, en fait, s'appelle certes abeille domestique, mais elle n'est pas si domestiquée que ça, parce qu'elle reste pour l'essentiel une espèce sauvage. D'ailleurs, il reste des abeilles Apis mellifera sauvages. Dans la zone atelier, on en a pas mal, en fait, grâce à la forêt chisée. Et en fait, pour l'abeille domestique, le trait principal qui a été domestiqué, c'est l'agressivité. On a cherché à avoir des abeilles un petit peu moins agressives, mais pour le reste, il n'y a pas grand-chose de changé par rapport à la version sauvage. Par contre, ce qu'on a fait avec l'apiculture, c'est qu'on a complètement changé l'environnement de cette abeille. Notamment, on sélectionne un certain nombre de races de rennes qui proviennent parfois de sous-espèces qui sont assez loin, qui peuvent être en Asie notamment. On a aussi mis en place des pratiques de sélection génétique au point où aujourd'hui, dans des dizaines de milliers de ruches, c'est le même clone de rennes d'abeilles qui est présent. Et ça, pour ceux qui travaillent sur à la fois l'épidémiologie, la génétique, la résistance aux pathogènes et compagnie, on sait très bien que d'avoir des clones, ce n'est pas la solution la plus durable en matière de résistance justement de ces taxons. On a aussi montré, mais je n'ai pas le temps de le développer ici, que le nourrissage des individus, des ruches, n'est pas forcément la meilleure option, parce que l'abeille, parce que c'est une espèce encore très sauvage qui répond à son milieu, avec un certain nombre de mécanismes écologiques. En fait, en mettant du sirop, on détruit ces mécanismes. Et puis, pour ce qui est du varroa, je voudrais attirer l'attention des apiculteurs, s'il y en a dans la salle. Il y a plusieurs études qui, aujourd'hui, se sont penchées sur des solutions alternatives à la problématique du varroa, qui consistent à utiliser les capacités à la fois de défense immunitaire, mais aussi de génétique des abeilles, sans forcément traiter avec des acaricides. Et ça marche plutôt pas mal. Alors ça, c'était les apiculteurs professionnels. On a aussi développé des travaux, notamment avec Sylvie Hout, qui est au CNRS à Chizé également, avec les apiculteurs amateurs, et notamment dans le cadre d'un programme qui est actuellement en cours, où on s'intéresse à justement l'abeille d'origine dans la région ouest de la France, qui est l'abeille noire, qui est en fait aujourd'hui relativement menacée parce qu'elle est remplacée par d'autres races d'abeilles dans les ruchers. C'est l'abeille qui était originaire d'Espagne et de France. Et donc, il y a actuellement tout un programme en partenariat avec des apiculteurs amateurs qui ont fait des prélèvements d'abeilles dans leurs ruchers respectifs, et ça nous a permis de montrer qu'à l'échelle de cette région, notamment autour de la forêt de Cizay, plus de 80% des abeilles qui sont capturées, qui sont dans les ruches, sont bien des abeilles noires. Donc on est encore dans une population relativement pure à l'origine, et ça a conduit à une problématique d'élevage de rennes pour sauvegarder et maintenir ce patrimoine, parce que c'est un patrimoine génétique, mais aussi un patrimoine culturel, qui a l'avantage d'être beaucoup plus résistant, notamment aux pathogènes et aux aléas climatiques. Et puis enfin, dernier aspect, au-delà des apiculteurs, des agriculteurs, travailler aussi avec les citoyens. C'est également un programme qui est mené par Sylvie Hout, avec les écoles, avec les scolaires, avec les habitants des villages, parce que les abeilles pollinisent aussi les cerises, les fraises, les tomates dans les jardins. Le jour où il y aura plus, ou en tout cas il y aura moins d'abeilles, vous aurez moins de tomates et des fraises beaucoup plus mal formées qu'actuellement. Et donc la prise de conscience des citoyens dans les villages est tout à fait capitale, et il y a donc un programme depuis plusieurs années qui consiste à mettre en place des ruches dans les villages, notamment gérées, enfin créées par les enfants dans les écoles, et gérées ensuite par les parents d'élèves ou des associations qui se créent dans chacun de ces villages. Ces ruches qui sont donc propriété des villages dans lesquels le miel est exploité. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre attention, et s'il y a des questions, j'aurai plaisir à y répondre dans la limite de mes compétences. Merci.
Bon, merci beaucoup Vincent, tu as fait un panorama assez vaste, hein, de à la fois de l'écologie de l'abeille, mais également de la manière dont tu t'y prends, dont vous y êtes pris pour étudier un certain nombre de facteurs et de problèmes. On va passer à des questions. Donc, vous levez la main dès que vous avez à poser une question. On va essayer de que les questions soient courtes et les réponses précises. Alors, voilà, première question.
Oui, bonjour. Michel Noir, agriculteur céréalier. Irrigant, en plus, c'est ce qui est encore pire. D'abord, je voudrais féliciter Vincent et puis lui dire que nous, ce qu'on a besoin, la profession, c'est des études scientifiques qui font avancer le débat, qui soient irréfutables, comme le travail qu'ils ont fait. Donc, le CNRS, merci. Première chose. La première chose qui me choque, enfin qui me choque et qui me fait réagir, et c'est pour la première fois, c'est qu'on met sur le marché des produits qui ont une AMM. C'est-à-dire que les études sont censées être faites avant la mise en marché des produits. Et c'est un petit peu comme quand vous allez chez le médecin ou la droguerie, vous utilisez un produit censé être non nocif pour les abeilles, c'est marqué dessus. Et en fait, on s'aperçoit qu'on achète des produits qui ont eu une autorisation de mise sur le marché. Alors je pense que là, c'est directement c'est l'État ou je ne sais pas, le responsable qui met sur le marché des produits qui tuent tout le monde. Alors ça, c'est... Moi, ça me scandalise. Et je dis que les agriculteurs ne sont absolument pas responsables de ce genre de choses. Quant au Nikonet, que j'ai toujours eu mal, j'ai employé du gaucho, mais je confirme ce que dit Vincent, c'est-à-dire que lorsque derrière un blé, on met un colza, j'ai remarqué encore cette année qu'il y avait des insectes morts sur les fleurs. Des petites mouches, je ne sais pas. Alors, je me suis fait la remarque. J'avais pas fait d'insecticide à la floraison, il n'y en a pas eu cette année. Et au début de floraison, il y a eu ça. Et je me suis posé la question de savoir. Je pense que je rejoins ce que tu dis, Vincent, parce que je pense que c'est vrai. Alors là, c'est des effets induits, c'est des effets pervers, parce que quand on fait un blé avec du gaucho, enfin, on avait ce problème-là. On pensait pas à ce problème-là. Voilà. Une petite remarque aussi, c'était, je pense que c'est de la semence d'orge qui est sur la photo, que c'est pas du blé. ouais. Bon, mais c'est pas grave. Alors voilà. Alors la question, c'est que je pose, mais qui est difficile à à mettre en place, c'est une agriculture qui va dans le sens d'une meilleure écologie, c'est à mettre en place. Mais là, il faut une concertation entre. Il faut que les scientifiques soient là avec nous. Mais là, c'est un débat qui peut avancer assez vite, parce qu'on a des propositions, on a des idées, bien sûr. Mais je me pose un peu en victime, moi, de ces produits qui font des choses qui n'étaient pas prévues, quoi. Voilà. Donc, c'est pas une question, je m'excuse, mais c'était pour faire avancer le débat.
Mais même si c'est pas une question, je vais quand même répondre et commenter, parce que je suis fondamentalement d'accord. Je pense que ces études soulève le problème de la qualité des évaluations sanitaires. Je n'ai pas trop peur de le dire. Je pense qu'il y a un véritable souci dans les évaluations de toxicité des produits qui ne prennent pas en compte les effets à moyen et à long terme, qui ne prennent pas en compte les mélanges, ce qu'on appelle les effets cocktails de pesticides, qui n'ont pas pris en compte, dans le cas des néonicotinoïdes, la rémanence qui a été totalement sous-estimée, voire peut-être même cachée. Il y a des questions aujourd'hui qui se posent sur les firmes qui ont produit ces néonicotinoïdes qui ont été vendus avec des rémanences dans le cas de l'imidacloprid de quelques semaines. Et nous, on se rend compte, et on n'est pas les seuls, que la rémanence est de plusieurs années. Donc, comment tout ça a pu être ignoré, ça pose effectivement, ça soulève la question de la qualité de l'évaluation sanitaire en France comme en Europe. Et je suis personnellement tout à fait d'accord, c'est une opinion personnelle, que c'est les pouvoirs publics là, qui sont à blâmer, parce qu'effectivement les produits sont sur le marché, donc on a le droit de les acheter. Donc maintenant ils ne le sont plus, mais ça pose vraiment des problèmes de fond, et les néonicotinoïdes ne sont pas les seuls à être dans ce cas-là. Voilà. Et donc il y a effectivement maintenant un grand défi qui est d'inventer une autre agriculture où il y a moins d'utilisation d'intrants. On a fait beaucoup d'études, j'ai pas du tout eu le temps de développer, c'était pas l'objet aujourd'hui, mais qui montre qu'en réduisant les intrants, que ce soit les engrais, la réduction d'engrais, par exemple, permet une augmentation des populations de vers de terre qui mettent à disposition l'azote en quantité très importante, parce qu'ils transforment en fait l'azote et le rendent disponible pour les plantes. Et des parcelles où on met beaucoup moins d'azote récupèrent largement en rendement. On a des résultats tout à fait identiques pour les pollinisateurs. Donc le panel de solutions, quelque part, il est disponible. Il faut maintenant le mettre en musique.
Bonsoir et merci beaucoup pour la présentation. Un sujet, est-ce que vous avez fait des études sur les cipans, les intercultures? Parce qu'en fait, il semblerait qu'elles ont un intérêt, parce que c'est pour les abeilles, avec la phacélie, des fleurs de ce type-là qui sont très mellifères ou pélénifères, mais il semblerait qu'elles concentrent les pesticides et insecticides et fongicides systémiques qui sont en terre, et d'ailleurs ça sert à ça, et en fait c'est une fausse bonne idée, quoi. Et on n'a pas trop d'études à part des cas d'agriculteurs et d'apiculteurs qui dialoguent et qui s'aperçoivent qu'il y a des mortalités importantes dedans. Voilà, donc je voulais savoir s'il y avait des études, parce que pour l'instant c'est que du candiraton.
Non, il y a. Alors nous, on n'a pas fait d'études sur la zone atelier, sur la problématique des cipans. J'ai un regard, non pas par rapport à l'abeille, mais plutôt par rapport à d'autres problématiques liées à l'eau et à l'azote, et donc un regard assez critique par rapport à cette approche. Mais il y a eu des études en France auxquelles ont participé les collègues de l'INRA du Manuro, et avec d'autres laboratoires qui justement ont regardé l'utilisation des abeilles de ces cultures, en particulier facélie, mais d'autres espèces. Donc effectivement, c'est
moutarde ou d'autres.
Oui, tout à fait. C'est très attractif, ça marche très bien. Mais vous avez pointé effectivement un problème que je pense qu'il ne faut pas ignorer, c'est qu'on retrouve, c'est des résultats relativement récents, mais on retrouve des quantités de néonicotinoïdes justement dans ces cultures qui sont tout à fait considérables, oui, et donc peuvent poser pas mal de problèmes.
Et l'étude, donc, vous dites que c'est l'INRA Manuro?
Oui, avec Jean-François, tu me corriges, mais il y a aussi l'ITSAP, il y a l'INRA Avignon, il y a eu un CASDAR là-dessus, je ne sais pas où il est Jean-François, mais...
C'est là, Jean-François.
Oui, je voulais vous demander... Bonjour, je voulais vous demander...
le système est quand même assez perverti par des fausses études aussi financées par les fabricants. Quelles sont les dernières décisions au niveau France et Europe par rapport à tous ces nicotines, tous ces produits?
Alors, pour ce qui est des néonicotinoïdes, c'est maintenant inscrit dans la loi française l'abandon total de ces insecticides systémiques sur l'ensemble des cultures annuelles. Je suis moins sûr de mon goût pour ce qui est de l'arboriculture, parce qu'il faut savoir que les néonicotinoïdes sont actuellement les insecticides les plus utilisés au monde, de très loin. Je crois que c'est 60% des insecticides, ou 50%. On en trouve beaucoup dans le coton, enfin vraiment dans toutes les cultures du monde. En tout cas, pour ce qui est de la France et des cultures annuelles, blé, orge, ils sont très utilisés. C'est inscrit dans le cadre de la loi, l'arrêt de l'utilisation de ces néonicotinoïdes. Je sais qu'il y a des discussions assez tendues entre le ministère et la FNSEA, notamment autour de la betterave. Donc il y a certaines cultures pour lesquelles il y a éventuellement l'existence de dérogations. Les décisions ne sont pas encore prises. Je pense que le gouvernement va peut-être accélérer la cadence parce que les semis, c'est quand même bientôt. Certes, on n'a pas encore moissonné, mais le temps avance vite. Et donc, s'il devait y avoir des dérogations ou pas de dérogations, je pense que ça serait important que les agriculteurs le sachent assez vite. Donc voilà, pour ce qui est de la France, je dirais presque que le problème est derrière nous. Ce qui est maintenant, il y a deux choses qui sont maintenant à étudier. C'est à quelle vitesse ces substances vont disparaître de l'écosystème. Ce qu'il faut savoir, dans le cas des néonicotinoïdes, on estime qu'il y a, ce sont des graines enrobées, donc avec l'insecticide qui va pénétrer dans la plante au moment où elle germe. Mais la fraction de l'insecticide qui rentre dans la plante, c'est à peu près 2%. J'ai bien dit 2%. Les 98 restants partent dans l'écosystème. Donc on a utilisé pendant des décennies ces néonicotinoïdes qui ont une rémanence beaucoup plus élevée que prévu. Donc ça va mettre un certain temps avant qu'ils disparaissent complètement des écosystèmes, des chaînes trophiques. Donc ça c'est une première chose à étudier d'un point de vue ce qu'on appelle l'écotoxicologie. Et puis beaucoup plus important, c'est je pense d'étudier avec les agriculteurs comment faire dans un monde sans néonicotinoïdes. Il y a des solutions qui existent, on n'est pas démunis, mais je crois qu'il ne faut pas laisser en plan toute une profession qui a utilisé pendant des décennies ces pesticides parce qu'ils étaient autorisés et qui d'un coup sont interdits. Donc on travaille aussi sur ces aspects-là et on essaye de faire en sorte que cet insecticide ne soit pas remplacé par un autre, mais plutôt d'utiliser ce nouveau cadre de loi pour accompagner les agriculteurs vers une transition agroécologique où le recours aux pesticides est moins systématique.
Vincent, il y a Jean-François Oudou qui voudrait donner un petit complément. Je lui donne la parole.
Merci, oui. Je voulais préciser la question que tu posais tout à l'heure. Et par rapport à au fait d'avoir cultivé des cultures intermédiaires mellifères, il y a eu un projet qui s'appelait Interapi, qui a été coordonné par Fabrice Allier, le gars qui est en rouge en bas de la photo. Là. C'est vrai que les cultures intermédiaires ont révélé la présence de néonicotinoïdes, en particulier l'imidacloprides, en arrière-saison. C'est des cultures qu'on avait semées à très grande échelle, 4 fois 30 hectares, multipliées par 2 répétitions en Beauce en particulier. Et il y a eu une analyse des pollens récoltés par ces abeilles pour voir si elles avaient effectivement butiné ces cultures intermédiaires qui avaient été apportées en plus des cultures déjà en place dans ces secteurs. Et malgré le fait que ces pollens, je crois que c'est les pollens, oui, qui contenaient de l'imidacloprides, eh bien, on a quand même observé un effet positif de ces cultures intermédiaires sur les ruches. Ça veut dire que même si effectivement on prend le risque d'exposer nos abeilles à des insecticides, le risque a été compensé par l'effet bénéfique qu'a apporté la diversité de l'alimentation, parce que sinon à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de diversité. Elles n'auraient mangé que du lierre et de la moutarde. Et là, grâce à nos cultures intermédiaires, elles ont aussi mangé du radis, de la facélie, du trèfle. Et finalement, cette alimentation plus complète qui a été apportée par les cultures intermédiaires a permis une meilleure résistance des abeilles à l'hivernage, au varroa, et finalement elles s'en sont mieux sorties. Donc c'est un risque qu'on peut faire prendre aux abeilles, sachant que le bénéfice était supérieur aux inconvénients.
Merci. J'en profite pour vous poser à tous les deux, à toi Vincent et à Jean-François, une question. Tu as bien montré qu'il y avait un problème de sous-alimentation chronique à certaines périodes des abeilles. S'il y a sous-alimentation, s'il n'y a pas assez de ressources, est-ce qu'il n'y a pas, d'un autre côté, trop de cheptel? Est-ce qu'il n'y a pas une gestion? Moi qui travaille sur la prairie, c'est la notion de chargement, c'est-à-dire que tu adaptes le chargement à la ressource fourragère. Là, est-ce qu'il n'y a pas également une question de... Parce que si on biberonne les abeilles avec du sucre, c'est bien parce qu'il n'y a pas assez à manger. Donc on accroît le cheptel.
Alors, oui. Ceci dit, il y a plein d'études qui démontrent qu'on est actuellement en France, mais encore plus généralement à l'échelle de l'Europe et du monde, en déficit de pollinisateurs. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le nombre de cultures, 70% des cultures dépendent aujourd'hui des pollinisateurs à des degrés divers, de certaines qui dépendent peu à des cultures qui dépendent exclusivement des pollinisateurs pour la fructification. Et il se trouve que, selon les statistiques de la FAO au niveau mondial, la superficie cultivée en culture dépendant des pollinisateurs augmente de manière très forte, alors que celles qui n'en dépendent pas n'augmentent pas. Typiquement en Europe, le colza et le tournesol sont des cultures relativement récentes qui sont encore en train d'augmenter, pas forcément en France, mais qui augmentent très fortement. Et il a été calculé qu'on manque à peu près de 30% de pollinisateurs à l'échelle de l'Europe pour polliniser ces cultures. Donc on est déjà en sous-effectif de pollinisateurs. Ceci dit, tu as quand même raison, mais j'inverserai la logique juste dans l'autre sens. Ce qui se passe, c'est que ces populations d'abeilles et cette apiculture se développent grâce à la présence de ces cultures très mellifères, que sont le colza et le tournesol, qui présentent des surabondances presque explosives, ce qu'on appelle des blooms de fleurs, de floraison, qui permet à ces abeilles, en l'espace, de pouvoir qu'elles sont installées en avril, donc elles sortent de leur hivernage, et en l'espace de quelques semaines, non seulement elles reconstituent le stock de butineuses, mais elles arrivent à dégager un excédent de production de miel les bonnes conditions de 10 voire 20 kg par ruche. Donc ça donne une idée de la capacité florale que produisent ces cultures mellifères. Et donc c'est plutôt, il y a cette grande abondance qui permet aux ruches de se développer, qui est suivie par cette période de disette alimentaire qui n'existait pas il y a une vingtaine d'années, parce qu'il y avait encore beaucoup de luzerne, de sainfoin, donc qui ont des périodes de floraison décalées et que les abeilles utilisaient. Donc voilà, on a de toute manière besoin de ces pollinisateurs pour la fructification et les rendements de ces cultures. Les agriculteurs ou les semenciers ne s'en rendent pas forcément compte, et on essaye de montrer par nos études que c'est une phase cachée en fait qui a été oubliée, y compris dans la sélection variétale. Mais quand on peut avoir des écarts de rendement de 30%, c'est quand même parlant, hein, c'est important. Et donc, augmenter les pollinisateurs, c'est augmenter les rendements, mais encore faut-il maintenir ces pollinisateurs dans les milieux et donc avoir des ressources florales et donc accepter qu'il reste des coquelicots dans le blé, dans des gammes d'abondance qui restent compatibles avec la culture du blé. Mais là, je rassure tout de suite tout le monde, un champ de 10 hectares de blé où il y aurait ne serait-ce que... Alors, je prends l'exemple du bleuet parce qu'on a aussi beaucoup travaillé sur le bleuet. Un bleuet par mètre carré. Il y a 400 pieds de blé au mètre carré. Si on met un bleuet, vous comprendrez assez aisément qu'il n'y a pas de compétition du bleuet sur le blé. Et avec un pied de bleuet au mètre carré, ça fait des dizaines de milliers de pieds sur une parcelle de blé. Ça suffit pour soutenir largement la survie des ruches. Donc voilà, il y a des pistes de solutions quantitatives qu'il faut maintenant mettre en place.
Ces images que tu viens de donner, c'est... C'est, ça a bien communiqué, parce que ça c'est parlant. Je crois que pour les agriculteurs, ça peut être un peu de mauvaise herbe, un peu de
d'adventice. Pas ça, des mauvaises herbes,
voilà, non. Un peu d'adventice. Voilà.
Mais on a mis dans l'expérience défi abeilles, là, que j'ai présenté très rapidement, on a réussi à convaincre des agriculteurs de semer du bleuet dans les champs de blé. Et on étudie justement à la fois la compétition, l'attractivité de ces bleuets. Donc c'est techniquement, alors c'est pas facile de, parce que c'est pas les mêmes tailles de graines, il y a plein de problèmes techniques, mais tout problème technique a des solutions techniques. Et donc là on essaye de travailler sur l'idée qu'on peut laisser des adventices à des densités qui sont infinitésimales du point de vue de la culture, mais tout à fait importantes du point de vue de la survie des abeilles.
Je voulais revenir sur le nourrissage. Faut pas laisser croire quand même que les apiculteurs ils nourrissent leurs abeilles avec du sirop en permanence. Les abeilles sont faites pour se débrouiller toutes seules. Et effectivement, il y a des professionnels qui peuvent stimuler leur ruche à un moment donné parce qu'ils ont besoin que les abeilles se développent pour être prêtes à les butiner sur une des fleurs plus spécifiques. Hein. Les amateurs ne nourrissent pas leurs abeilles. Hein. Simplement en période d'hiver, on peut leur donner un complément si c'est nécessaire. Mais moi personnellement, je ne nourris pas plus d'un tiers de mes ruches pour passer l'hiver. Et au printemps, je peux donner un complément éventuellement pour des nouveaux essaims, pour qu'ils puissent se développer. Mais les abeilles n'ont pas besoin d'être nourries. On est d'accord. Alors, je voulais revenir après sur les grandes cultures qui sont le colza et le tournesol. Effectivement, ça fait le bonheur des abeilles et des apiculteurs pendant très longtemps. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Il faut bien reconnaître quand même que les colzas, entre autres, ne produisent plus du tout la quantité de miel que l'on pouvait faire il y a 25 ou 30 ans. Alors, est-ce que c'est dû aux nouvelles variétés? C'est possible. Est-ce que c'est dû à la fleur qui a été modifiée? Est-ce que c'est un problème de répulsif qu'il peut y avoir sur les plantes pour éviter que les abeilles y vont? Parce que au printemps, on ne voit pas beaucoup d'abeilles dans les champs de colza. Et sur les tournesols, les grandes miellées qu'on a fait dans les années 80-90, c'est du passé, quoi. Aujourd'hui, quand on a fait 10-15 kilos, c'est tout. Alors qu'on a eu jusqu'à plus de 50 kilos à la ruche à cette période-là. Alors, on peut quand même s'interroger si les variétés n'ont pas changé aussi.
Non, bien sûr. Il y a, enfin, comme tous les problèmes complexes et causes multifactorielles. Donc, voilà, il y a cette piste sur les variétés a été largement évoquée. On ne l'a pas étudié, mais des collègues de l'ITSAP le font sur le tournesol. Justement, ils regardent les tailles des fleurons, parce qu'en fait, quand ils sont trop profonds, les abeilles n'accèdent plus au nectar. Donc, des études ont été faites là-dessus. Après, moi, je pense quand même, alors c'est l'écologue qui parle, hein, mais cette période de disette alimentaire entre le colza et le tournesol est tellement marquée aujourd'hui dans ces paysages où il n'y a à la fois plus de luzerne et plus d'adventices, que je pense que les populations n'arrivent pas à profiter du tournesol, de la miellée de tournesol, de la production de nectar dans les fleurs de tournesol, parce qu'elles sont pas, elles mettent trop de temps à se reconstituer, et du coup elles passent à côté d'un potentiel qui peut être élevé. Voilà. Bon, c'est une hypothèse, hein, il y en a d'autres. Mais... Vous avez vu le graphique sur le nectar là, que j'ai montré, hein, ce sont des données modélisées, mais à partir de données réelles. Donc on a cartographié toutes les haies, on a l'abondance des ronces, des tilleuls, tout ça dans les jardins, dans les haies, et vous voyez quand même l'énorme écart qu'il y a de disponibilité du nectar pour les abeilles. Donc ça explique pourquoi elles ne font pas de miel entre le colza et le tournesol. Mais on est en train de calculer, et ça mérite d'être modélisé là aussi, à quel point, en tout cas sur certains cas extrêmes, il n'y a même plus assez pour nourrir les individus, quoi.
Bravo pour la qualité de votre travail, d'abord, j'ai beaucoup apprécié. Je voudrais revenir sur le problème des pesticides et des néonicotinoïdes en particulier. Moi, j'ai été extrêmement surpris, quand j'ai regardé ces trucs-là de près, de voir que l'ANSES avait donné son autorisation pour l'imidacloprid, qui, bon, c'est le gaucho, hein, pour parler plus banalement. C'est un produit qui a quand même, selon l'ACTA, donc les sources officielles, une demi-durée de vie de 80 à 300 et quelques jours à peu près. C'est-à-dire qu'on en perd 50% à la louche en 180 jours à peu près. Ça, donc il y a 50% de perdu. Il faut autant de temps pour en perdre encore 50%. Donc c'est pour tomber à 25%. Donc automatiquement, il en reste l'année d'après. Donc c'est tout à fait logique qu'on ait une pollution à l'imidacloprite sur la récolte suivante, ça fait partie de la logique des choses. Et donc,
je vous interromps, après je vous redonne tout de suite la parole, mais les chiffres que vous donnez sont les nouveaux chiffres de l'imidacloprite, mais quand le produit a été mis sur le marché dans les années 90, c'était pas la période, je ne l'ai plus en tête, mais vous pourrez vérifier, c'était pas la période de durée de vie qui était fournie, qui était beaucoup plus courte.
Bon, j'ai un vieil aptage, j'essaierai de le garder dessus. Bon, maintenant, on s'accorde sur ces valeurs-là à l'heure actuelle. Donc, pour moi, c'est un produit qui doit être banni, c'est une évidence. Je mettrai dans le même sac le diamétoxam et la clothianidine. Bon, le thiacloprid, on discutait, bon, il n'est pas brillant aussi, c'est des utilisations très spéciales. Il y en a un, par contre, que je n'aurais pas jeté, parce que l'agriculteur, il va se trouver avec rien du tout et il fera peut-être des bêtises. Et moi, j'aurais gardé l'acétamipride tout simplement parce qu'il a une rémanence d'à peu près 3 jours, enfin, des 5 ans de 3 jours. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Bon, sous réserve qu'il soit utilisé dans des conditions décentes, pas comme un abruti, c'est un outil qui peut être utile à l'agriculteur. Je crois qu'il ne faut pas tout lui supprimer. Par ailleurs, c'est un petit peu le pendant de comment il s'appelle celui-là déjà, l'amitraz, donc c'est une forme amidine, ça, l'amitraz, et on a fait l'apivar qu'on met dans les ruches pour traiter le varroa, et il y a le taux fluvalinate aussi qui est connu sous le nom d'apistan quand on le met dans les ruches pour traiter le varroa. Alors, je me suis amusé, moi, à faire un calcul bête. J'ai fait la dose à l'hectare de ces produits sur la dose létale pour une abeille. Et l'acétamipride se trouve précisément entre ces deux-là. Donc, je pense qu'il est un petit peu une exception par rapport aux autres, parce qu'il est à peu près 10 000 fois moins toxique que ces autres congénères néonicotinoïdes. Alors, moi, je ne suis pas pour interdire un produit parce qu'il a un mode d'action néonicotinoïde. Donc, celui-là, je le garderai. Par contre, dans d'autres séries, j'en interdirais volontiers certains. Donc ça c'est une opinion sur ce point-là. Autrement, on a parlé de la pénurie de nourriture. Je pense que tout ce qui est désherbage post-moisson et autres, c'est absolument une catastrophe, c'est une évidence. Bon, on ne l'a pas dit, mais ça se rejoint. Et il y a un autre point qui me choque également. C'est qu'on entend beaucoup de gens dire au titre de l'écologie, il faut manger moins de viande. Par contre, il faudrait que refixer de l'azote, il faudrait qu'on ait des cultures intermédiaires, des assolements avec du sainfoin, de la luzerne, etc. Alors, si on fait ces cultures-là, il faudra les rentabiliser. Donc je pense qu'il y a il y a quelque chose de non cohérent dans ces analyses-là qui disent qu'il ne faut surtout pas toucher à la viande, il faut garder pour moi de grands équilibres. Je pense que c'est ce qui est le plus important.
C'est pas vraiment des questions, donc je n'ai pas forcément d'avis. Je pense les solutions manichéennes sont généralement pas de bonnes solutions par rapport aux écosystèmes et à la nature qui sont par essence des systèmes complexes et qui non seulement s'accommode de la diversité, mais vive de la diversité. Donc voilà. Je pense qu'il y a effectivement.
Vous êtes pour l'interdiction de tout
Non, moi je suis ni pour ni contre. Moi, je fais des constats. Bon, vous avez employé plein de termes très techniques. Je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse dans la salle. Il y en a même un ou deux que je connaissais moi-même pas du tout. Je ne suis pas un spécialiste des pesticides. Mais moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est bon, il y a le cadre de la loi. Il faut quand même aussi tenir compte de ce que pensent les citoyens. Les citoyens, c'est aussi des consommateurs. C'est quand même eux qui achètent les produits in fine. Donc on peut, dans l'avis des consommateurs, ce n'est pas un avis monolithique, ça marche quand même à la majorité quelque part. C'est le principe des démocraties. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que le cadre de notre programme de recherche, c'est plutôt d'utiliser des cadres de politique publique, par exemple éco-phyto, par exemple la nouvelle loi biodiversité qui va interdire les néonicotinoïdes, pour enclencher des changements en profondeur des systèmes, notamment des systèmes agricoles. Donc peut-être que ça aurait été judicieux d'en garder un sur les 6 ou les 10, parce qu'il y a quand même pas mal de néonicotinoïdes différents. Voilà, mais c'est pas le cas, et on va réfléchir à comment... Enfin, c'est comme l'histoire du glyphosate. Le glyphosate, à lui tout seul, va pas changer l'état de la biodiversité dans les agro-écosystèmes agricoles. C'est clair. Par contre, si on s'engage dans une stratégie à l'avenir d'abandon du glyphosate, c'est quelque part un autre modèle agricole qu'il faut inventer. Donc c'est plutôt ça qu'il faut utiliser. En tout cas, nous, en termes de recherche, c'est plutôt ça qu'on utilise comme un vecteur, comme un catalyseur pour réfléchir à des basculements, des changements assez complets, des changements de paradigme, des changements de système agricole. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Non, absolument.
Pourriez-vous nous donner quelques pistes sur, on va dire, l'ère post-néonique et, parce que vous sembliez dire dans votre présentation que c'était le cas, or, qu'il y avait des choses réelles qui pouvaient aider l'agriculture à transitionner. Or, la communication médiatique de Stéphane Travers ou de la FNSEA, c'est de dire aujourd'hui, désolé, on ne peut pas se prononcer parce qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution alternative, il n'y a pas de choses réellement éprouvées, prouvées, etc. Or, et d'un point de vue public, je pense que c'est intéressant de se dire, est-ce qu'il y a une porte après ou pas? Parce que là, pour l'instant, on nous dit, non, mais on ne peut pas l'interdire, on ne peut pas le mettre dans la loi, parce qu'on ne peut pas les mettre dans la loi parce qu'il n'y a pas de solution. Alors, qu'est-ce que dit la communauté scientifique ou les experts?
Je vais vous répondre ce que dit la communauté scientifique, et malheureusement, je n'ai pas amené la diapo avec moi, c'est un peu une erreur parce que j'aurais pu m'attendre à la question.
Alors, je vous avais prévenu. Hein.
La communauté scientifique qui s'est intéressée à l'effet des néonicotinoïdes sur les rendements, sur la production, à part un ou deux cas, parmi des dizaines de cas, n'a jamais mis en évidence, et vous pouvez le constater si vous regardez les rendements de colza ou les rendements de maïs ou les rendements de tournesol, la mise en place sur le marché des néonicotinoïdes ne s'est pas accompagnée d'une augmentation de rendement. Ça, c'est le premier point. Donc, s'il n'y a pas eu d'augmentation de rendement avec l'apparition de ces insecticides systémiques, on peut poser comme hypothèse de base, a priori, là je raisonne en tant que scientifique, que arrêter ces insecticides ne devrait pas avoir d'effet, puisqu'ils n'en ont pas eu auparavant. Deuxièmement, pour aller quand même un cran plus loin, là je parle de méta-analyse, ce qu'on appelle des méta-analyses, c'est des analyses scientifiques qui recouvrent et regroupent des dizaines, voire des centaines d'analyses ponctuelles. Deuxièmement, pour ce qui est des néonicotinoïdes, il y a eu beaucoup de débats depuis pas mal d'années dans pas mal de pays d'Europe et dans pas mal de cultures, et on a pas mal d'exemples aujourd'hui de pays qui ont légiféré pour un néonicotinoïde ou une culture. Par exemple, l'Angleterre a arrêté le thiamethoxam sur le colza dans les années 2012, un an ou deux ans avant la France. Je crois que c'est le thiamethoxam, j'ai un doute, mais bon, voilà. Donc on a un certain nombre de cas comme ça, et on a aussi le cas en France maintenant, puisque le thiamethoxam est interdit sur le colza depuis 2013. Et quand on regarde les séries nationales de rendement, l'arrêt de ces néonicotinoïdes, comme prévu par mon hypothèse de base précédente, ne s'est pas accompagnée de baisse de rendement. Et dans le cas de l'Angleterre, où il y a eu des études assez précises qui ont non seulement quantifié les insectes dans le colza, mais qui ont aussi quantifié l'utilisation par les agriculteurs d'autres insecticides, puisque que justement la FNSEA, vous évoquez, dit fréquemment que quand on va arrêter les néonicotinoïdes, les agriculteurs utiliseront d'autres insecticides qui ont des capacités toxiques parfois peut-être plus élevées encore, notamment les pyréthrénoïdes. Ils ont regardé ça justement en Angleterre. Il y a eu aussi une étude pour ce qui est de la Finlande et une autre pour ce qui est de la Suède. Et en fait, on n'observe pas d'augmentation du volume d'insecticides utilisés par les agriculteurs. Donc, sur la base de faits scientifiques, d'études qui ont été produites dans un certain nombre de pays et sur un certain nombre de cultures, du fait de l'absence d'augmentation des rendements liés à l'utilisation des néonicotinoïdes, du fait de l'absence de la baisse des rendements liés à l'interdiction de certains néonicotinoïdes sur certaines cultures, je reste sur l'hypothèse de base qu'on peut remplacer les néonicotinoïdes par rien du tout. En fait, pourquoi ? Parce que ça va non seulement pas avoir d'effet majeur sur les rendements, mais ça va avoir probablement des effets collatéraux positifs sur les insectes, et notamment les pollinisateurs, qui pollinisent ces cultures, précisément, le colza et le tournesol. Et il y a des études qui ont montré, je termine, je vais vous faire une espèce de florilège, il faut me croire sur parole, malheureusement, je n'ai pas amené les graphiques, mais en Finlande, il a été montré, parce qu'en Finlande, c'est encore plus intéressant, il y a des provinces en fait qui ont décidé d'interdire les néonicotinoïdes sur, je crois que c'est du colza aussi, et de la betterave, et d'autres provinces qui ont décidé de les maintenir, et ils ont montré qu'il n'y avait pas de différence de rendement entre les provinces, mais qu'en plus, celles qui avaient des néonicotinoïdes avaient plutôt des rendements plus faibles, et la raison, c'est qu'il y avait moins de pollinisateurs, parce que on est vraiment en situation de limitation pollinique dans les pays nordiques. Donc, voilà, c'est un peu le discours qu'on essaye de tenir avec les agriculteurs sur notre zone d'étude, c'est les accompagner en étudiant, dans un premier temps sans rien faire, en remplaçant les néonicotinoïdes par rien du tout, de voir comment se comporte la biodiversité dans leur parcelle, leur rendement et leur revenu, parce que les néonicotinoïdes, ce n'est pas gratuit.
Juste, je voulais revenir, donner un petit complément. D'abord, dire que j'étais tout à fait d'accord avec ton interprétation et dire, pour ceux qui ont assisté à la conférence que j'ai faite il y a 15 jours, que si on revient à une agriculture diversifiée, on aura encore moins besoin de tous ces produits. Donc, bien sûr, on peut toujours dire « vous aurez besoin de ces produits », oui, si vous continuez à vouloir faire de la même culture partout, des trucs totalement homogènes. On serait peut-être dans ces cas-là condamné à avoir de ces produits. Mais on peut justement revenir avec des rendements tout à fait importants si on maintient une agriculture diversifiée. C'est-à-dire qu'on maintient des champs de colza en rotation avec plusieurs cultures, avec des cultures fourragères, avec de la luzerne, avec des animaux qui résoudront une partie des problèmes qu'on tente de résoudre avec ces produits. Voilà. Donc on est bien en train de boucler, vous voyez, il y a tout ça est tout à fait cohérent. Agriculture plus diversifiée, apiculture, je dirais, abeilles et pollinisation plus facile. Voilà. Tout ça est lié. Y a-t-il d'autres questions ? Ah ben oui, il y avait une question.
Au fait, vous avez pratiquement répondu à toutes les... La question que j'allais poser là à l'instant, mais je crois que ce qui est très important, en fait, c'est maintenant, ce stade, c'est de savoir comment ce que vous avez dans la zone d'atelier fait, qui est reconnu, qui donne des résultats positifs, dans le sens où on peut améliorer le rendement tout en diminuant les intrants, notamment les phyto, c'est comment on le réalise ça à grande échelle. Parce que la question qui est posée aujourd'hui par beaucoup, c'est ça, c'est très bien, ils le font sur une zone dite atelier qui est déjà une surface assez considérable par rapport à si on le faisait en laboratoire, mais qui nécessite d'être mis à grande échelle. Quand je dis grande échelle, c'est des milliers d'hectares sur un pays comme la France, pour voir quel effet positif cela a. Donc c'est là qu'est l'enjeu. Il y a un problème de communication, il y a un problème de volonté politique, il y a un problème de volonté professionnelle, enfin, c'est un tout en fait, et c'est là qu'est l'enjeu aujourd'hui. Alors, ma question est simple. Comment vous pensez pouvoir, en termes de communication, comment vous sentez les choses par rapport à cela, c'est comment vous pensez que demain, vous imaginez que ces tests-là seront faits grandeur de nature avec les résultats que l'on peut espérer et qui sont tout à fait crédible aujourd'hui, parce que avoir des coquelicots ou des dans un champ, ça paraît aujourd'hui ça choque les agriculteurs, c'est le cas de dire, hein. Mais alors que c'est pas gênant, comme on l'avait expliqué tout à l'heure. Par contre, ce que ça nécessitera, c'est une nouvelle technique aussi culturelle, parce qu'il faudra aussi avoir le bon nombre de coquelicots par rapport à la bonne nombre de kilos de blé. Enfin, c'est aussi ça qu'il faut changer. Donc ça veut dire que c'est tout qui doit changer. C'est le matériel agricole, c'est les techniques, c'est tout qui doit changer. Et ça, c'est très important de le dire. Et c'est là qu'est l'enjeu fondamental, finalement. Ça commence à la formation des jeunes, jusqu'aux machinistes, jusqu'à etc., etc. Et c'est là qu'il y a le vrai enjeu, au final, parce qu'on est à peu près, tout le monde à peu près d'accord pour dire que tout ce qui a été fait auparavant, les rendements sont plutôt d'ailleurs stagnés aujourd'hui. Même avec les apports d'intrants classiques aujourd'hui, les rendements en moyenne ils stagnent. En plus, ça veut dire que là, et les revenus des agriculteurs ils baissent. Parce que le premier effet collatéral lié à arrêter tout ça, c'est aussi d'améliorer le porte-monnaie des agriculteurs. C'est quand même essentiel dans l'époque où l'on vit. Donc je pense que c'est tout ça qu'il faut mettre en place, et ça c'est la bonne question. Et moi, ce que je crois, c'est qu'il faut qu'aujourd'hui tout le monde prenne ça en main et le mette à une échelle, l'échelle qui mérite être prise pour en avoir toutes ces preuves que cela marche. Voilà.
Alors, déjà, je voulais juste corriger un point tout petit, hein, mais nos études là, qui font appel à ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature et la biodiversité, on n'augmente pas les rendements. Notre objectif, c'est plutôt de les maintenir ou de les diminuer de manière très très infinitésimale. Ce qu'on augmente, c'est les revenus. C'est ça qui est important. On est beaucoup plus important d'ailleurs. Donc ça, c'est juste un point de détail. Donc, en réduisant le recours aux engrais ou aux pesticides, on ne pénalise pas les rendements, en tout cas de manière significative, mais on augmente fortement, ou très fortement, les revenus. La deuxième chose, vous pointez les études qui sont faites sur la zone atelier. Ces études, elles produisent des pistes de solutions. Moi, je pense qu'on n'en est pas encore du tout à des solutions clés en main, même pour des contextes pédoclimatiques comme ici, et encore moins pour d'autres contextes pédoclimatiques. Donc on n'en est pas, et d'ailleurs ce n'est pas notre métier en tant que chercheur d'être distributeur de solutions et de cahiers des charges, de cahiers techniques. Par contre, on a des pistes qui sont prometteuses, et donc on continue à tester avec les agriculteurs, parce qu'on souhaite maintenant valider ces pistes, ces solutions sur le long terme. Ce qui n'est pas encore le cas à nos études, enfin le long terme, c'est le très long terme, on a 4 ou 5 ans de recul, on n'a pas encore 15 ans sur ces solutions. Après, la question que vous pointez, qui est celle de la diffusion au-delà de ce site d'étude, ben, on sort du cahier des charges et du métier des chercheurs, et moi et tous les collègues avec qui je travaille, je pense qu'on aimerait beaucoup, et c'est un message que certains d'entre vous peuvent peut-être aussi véhiculer, on aimerait beaucoup travailler avec les représentants de la profession agricole, que ce soit les coopératives, les chambres, les instituts techniques, parce que je pense que c'est leur métier à eux, justement, de valider, de calibrer ces solutions issues de la recherche pour les adapter à des contextes locaux, pour les disséminer plus largement. Donc voilà, je regrette que sur notre zone d'études, on ne travaille pas assez actuellement avec ces instituts techniques et ces représentants du monde agricole, parce que je pense que c'est la dernière étape, une des dernières étapes qui nous manque. Donc l'appel est lancé, je le lance régulièrement.
Quand même, il y a le développement de l'agriculture biologique, c'est quand même un effet important, et ça va dans ce sens-là quand même. Donc là, tu peux travailler facilement avec les biologiques.
Absolument, mais notre objectif, c'est pas que la zone atelier devienne 100% bio, ce qui ne se passera pas de toute manière non plus à l'échelle nationale. Donc c'est une pluralité d'agriculture dans laquelle, effectivement, je ne les ai pas mentionnés du tout, mais on a montré que dans les parcelles en agriculture biologique, il y a plus d'abeilles, que dans les territoires où il y a une forte proportion d'agriculture biologique, les rendements apicoles sont améliorés. C'est une étude qui est en cours, là. Donc voilà, ça contribue à l'amélioration globale du système, mais on est pour, enfin, on travaille sur une pluralité de modèles, y compris avec les conventionnels, comme tu le sais.
Bon, merci beaucoup, Vincent, donc, pour cet exposé, ce débat qui était assez riche, je crois, qui, encore une fois, montre que l'agriculture, c'est un ensemble, c'est un système global, et on ne peut pas faire une agriculture pour résoudre le problème des abeilles d'un côté, pour résoudre d'un autre côté le problème de la quantité de l'eau, pour résoudre... Non, c'est... On doit prendre tout globalement, et donc c'est bien dans cette idée-là que cette zone atelier à deux pas d'ici a été construite et menée. Donc merci beaucoup. Ainsi, on va clore la saison des conférences qui reprendra pour une nouvelle saison dès le mois d'octobre, novembre, et où on prévoit 4 à 5 conférences dans l'année. Donc, je souhaite qu'il y ait toujours autant de monde et autant d'intérêt pour ces thèmes qui pourront s'élargir à autre chose que la seule agriculture, bien entendu. Il y a d'autres aspects de la vie de tous les jours et des problèmes scientifiques qui se posent, des connaissances scientifiques qui se posent dans les problèmes de la vie de tous les jours qui peuvent être abordés au cours de ces conférences. Donc, merci beaucoup et à la prochaine fois.